Bonjour, je vais vous faire une lecture dans la lettre aux Romains au chapitre 5 à partir du verset 1. Je vais vous faire la lecture dans la version de Alfred Kuhn, qui est un théologien suisse qui a travaillé avec une équipe et j'aime beaucoup cette version qui s'appelle la parole vivante. La parole vivante. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à bien comprendre. Voilà ce que Paul disait. Si donc nous avons acquis notre justice devant Dieu par la foi, nous sommes en paix avec lui grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Jouissons de cette paix et gardons-la. Oui, c'est Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. Par lui, nous avons un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Nous avons le bonheur de pouvoir dès maintenant contempler la gloire de Dieu et nous regardons vers l'avenir avec une entière confiance. Nous savons que nous serons associés à cette gloire. Notre espérance nous fait exulter de joie, car un jour toute la splendeur divine sera nôtre. Mais il y a plus, dès maintenant nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Oui, malgré nos difficultés, nos détresses, nous triomphons, car nous savons qu'elles contribuent à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patients, à porter nos fardeaux sans rechigner. La patience nous affermit et développe notre force de caractère, elle nous aide à faire toujours davantage confiance en Dieu. Lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, notre foi et notre espérance acquièrent une force et une constance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu nous aime et il nous a donné son Saint-Esprit qui remplit nos cœurs de son amour. En effet, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider par nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable, Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous, c'est-à-dire pour des impies qui ne se souciaient pas de Dieu. Il est déjà extraordinaire que quelqu'un donne sa vie pour un homme de bien. Il peut arriver que pour un bienfaiteur ou pour une cause juste, un homme accepte de braver la mort. Mais Christ est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? À plus forte raison maintenant, puisque nous sommes acquittés par l'effusion de son sang, pouvons-nous être certains d'être aussi soustraits à lui, par lui à la colère divine? Car si tout en étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison maintenant que nous sommes ses amis et qu'il vit en nous, trouverons-nous par la vie un salut complet. Par sa vie, un salut complet. Je dirais même plus, nous pouvons dès à présent nous réjouir dans une vie de communion avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec lui. Amen. Jésus, je te prie de m'aider à trouver les mots pour que ces choses écrites par l'apôtre Paul puissent être encore plus claires dans l'esprit de chacun et de chacune. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Paul écrit un résumé en trois phases des conséquences de notre justification. Il nous a rendu juste, c'est ça que ça veut dire la justification, il nous a rendu juste. 1. Nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. 2. Nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. 3. Nous mettons notre orgueil dans l'espérance de la gloire de Dieu. Voilà ce que la justification produit, le fruit de la justification, le résultat de cette justification. C'est la paix, la grâce et la gloire que nous espérons. En fait, ces trois points correspondent aux trois temps, aux trois phases de notre salut. La paix avec Dieu, premièrement, nous parle de l'effet immédiat de la justification. Nous étions ennemis, mais cette ancienne inimitié est maintenant effacée par le pardon de Dieu et nous sommes en paix avec lui. Ça s'est fait immédiatement, à partir du moment où nous avons reçu Christ dans nos cœurs comme sauveur et maître. Deuxièmement, cette grâce dans laquelle nous sommes établis nous parle de l'effet permanent de la justification. C'est un état auquel nous avons accédé, c'est nous qui sommes venus, enfin il nous a appelés, mais c'est nous qui sommes venus, nous avons accepté. Nous avons accédé, et c'est un état dans lequel nous restons établis. Jésus nous a fait entrer dans le lieu où règne la bienveillance divine, et bien sûr, étant entré, on va y rester, hein. Qui c'est qui va sortir de là? Nous y demeurons aujourd'hui. Troisièmement, la gloire de Dieu que nous espérons nous parle de l'effet ultime de la justification. La gloire de Dieu signifie ici le ciel, parce que c'est là que Dieu lui-même nous sera pleinement révélé. Nous verrons la gloire de Dieu au ciel, et même nous y aurons part, puisque nous serons comme Christ. On trouve ça dans l'évangile, dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Oui, mes chers, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Nous ne savons qu'une chose, lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, et nous le verrons alors tel qu'il est. Sur terre, nous attendons, parce que nous avons cette espérance, une confiance sûre, une confiance certaine. Et c'est une telle certitude que nous pouvons, dont nous pouvons nous réjouir dès à présent. Nous mettons, comme il dit, l'orgueil dans d'autres versions, dans notre espérance de la gloire de Dieu. Nous mettons notre orgueil dans cette ferme assurance de la gloire de Dieu qui nous sera révélée et que nous partagerons avec lui. Alors, ces trois expériences nous donnent une image équilibrée de la vie chrétienne en relation avec Dieu. Là, Paul ne nous parle pas de notre relation avec les gens. Il nous parle de notre relation avec Dieu que nous connaissons. C'est un magnifique résumé de la vie d'un disciple de Jésus. Paix, grâce et gloire. Avec le mot paix, nous tournons nos regards en arrière vers l'inimitié qui est maintenant abolie. Avec le mot grâce, nous levons nos yeux vers notre Père bienveillant avec qui nous demeurons maintenant. Et avec le mot gloire, nous portons nos regards vers notre destin final lorsque nous verrons et reflèterons la gloire de Dieu qui est l'objet de notre attente, de notre espérance. Maintenant, versets 3 et 4, Paul nous précise bien qu'après avoir été justifié, notre sentier n'est pas couvert de pétales de roses. Bon, il y a des roses, il y a des bons moments, il y a des moments merveilleux, des moments de réjouissance, mais il n'y a pas que des pétales de roses, il y a aussi les épines avec les roses, hein. Et c'est pourquoi Paul dit, nous nous réjouissons même dans nos souffrances. Alors, il y a paix, grâce, gloire, mais il y a aussi souffrance. Alors de quoi Paul parle-t-il quand il nous parle de souffrance? Il ne parle pas de maladie, c'est pas Dieu qui envoie la maladie. Il ne nous parle pas de tristesse, c'est pas Dieu qui envoie la tristesse. Il ne nous parle pas de deuil, ça c'est quelque chose qui est tout à fait normal, puisque la mort est entrée dans le monde par le péché, nous mourrons, et c'est vrai que le deuil c'est quelque chose qui est difficile, mais ce n'est pas de ça dont il parle. Il nous parle des tribulations, de la pression du monde hostile à Dieu et à ses disciples. Cette souffrance est toujours le chemin vers la gloire. Jésus lui-même, on a parlé, on trouve ça dans Luc, chapitre 24, 25, 26, voilà ce qu'il dit. Ah, c'est, oui, Jésus soupire. Ah, vous n'avez pas compris grand-chose, leur dit Jésus. Et vous êtes bien lent à croire tout ce que les prophètes ont prédit depuis longtemps. Le Christ ne devait-il pas nécessairement souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans la gloire? Vous voyez, même Jésus-Christ a dû souffrir pour entrer dans la gloire. Et mes frères et sœurs, ce qui est vrai de Jésus l'est aussi pour ses disciples, puisque le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et Paul le dira un peu plus loin dans son épître, la même épître aux Romains, au chapitre 8, je crois, verset 17, il dit, attendez que je le trouve, 8, 17, enfants de Dieu, alors nous sommes aussi ses héritiers. Nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu, exactement comme Christ, et tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi nôtre. Oui, si maintenant nous sommes unis à lui, si nous portons ses souffrances, nous serons aussi à ses côtés, associés à sa gloire dans le monde nouveau. Et les souffrances de Christ, ça n'a pas été les maladies, ça n'a pas été... Non, c'était l'opposition constante des gens qui étaient hostiles à Dieu, même des religieux, surtout des religieux. Donc ce qui est vrai pour Jésus l'est aussi pour nous. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir, parce que ça fait déjà beaucoup de choses à méditer, et pensez à ces choses, et réjouissez-vous devant Dieu. Dieu voulant, je continuerai dimanche, et priez pour moi afin que je vous explique les choses bien, bien clairement, parce que les temps deviennent difficiles et nous avons besoin d'avoir des choses claires dans nos cœurs et dans nos pensées. Que Dieu vous garde dans sa paix. Amen. Au revoir.